Chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons dire à chacune et chacun en cette heure, qui que tu sois, frère et passant, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et chacun, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Invoquons l'Éternel, notre Dieu. Éternel, nous aspirons à la sérénité. Nous avons besoin de quitter nos soucis et d'être libérés de nos tensions, de recevoir la paix que tu apportes à nos vies. Éternel, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fidèle, et ta parole apaisera notre soif de paix. Louange à toi, ô notre Dieu. Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter dans le recueil Le Psautier français, le psaume 42, les strophes 1, 3 et 8, 1, 3 et 8 du psaume 42.
Oh, say.
Heureux es-tu si tu fermes ta porte à la violence et à l'instinct de dominer tes semblables. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur à la force de la douceur et de la maîtrise de soi, et tu auras la joie de voir la terre venir à toi. Heureux es-tu si tu ne crains pas de vibrer avec ton prochain, affronté à la douleur, à la solitude ou à la misère, à la peur de la mort. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur aux larmes de la compassion et aux gestes qui relèvent, et toi aussi, tu seras consolé. Amen. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas seulement des manquements ou des pensées furtives, des prières secrètes et des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi, j'ai besoin de toi et de paix. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Éternel, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon. Pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois que Dieu désire la vie, notre vie, et la donne sans mesure. Rendons grâces à Dieu pour son don ineffable. Confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain, sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Gloire à Dieu dans le monde et en Jésus-Christ et d'éternité en éternité. Amen.
Prenons place. À l'exception de Martin Gwendolen, du parrain et de la marraine de Marine, nous avons la joie de vous accueillir ce matin. Vous avez demandé que ce petit bout de chou reçoive le signe de l'amour inconditionnel de Dieu. Ce est aussi une façon pour vous de lui faire suivre les pas qui sont les vôtres, puisque il y a à peu près une poignée d'années, vous étiez là, ici même, Gwendolen, face à cette communauté, exprimant votre foi et votre désir de vous y attacher. Alors, tes parents ont décidé de répondre à cet appel qui vibre à la fin de l'Évangile selon Matthieu. En effet, Jésus laisse comme consigne à ses disciples d'aller de toutes les nations faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce qu'il leur a enseigné. Eh bien, cela est vrai aujourd'hui encore, avec toi, et dans une certaine mesure, le baptême est le signe de ton entrée dans l'alliance de Dieu. Une alliance conclue de génération en génération avec celles et ceux qui foulent notre monde. Alors par le baptême, Dieu qui est pour l'instant un mot très compliqué pour toi, mais tes parents, ton parrain, ta marraine te le rendront plus familier, te rendront plus familier toute cette réalité que cela désigne, eh bien Dieu nous manifeste le salut en Jésus-Christ. Et le salut, c'est notamment le fait que ta vie n'est pas chaotique, mais que tu auras la possibilité de lui donner des impulsions, de lui donner du sens. Ce baptême signifie que Dieu t'a aimé le premier, Marine. Oui, cela s'entend dans cette phrase qui retentit au moment du baptême célébré par Jean le Baptiste. « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Eh bien, cette parole te rejoint aujourd'hui. Et tu vas découvrir tout au long de ton existence à quel point tu es la bienvenue ici même. Alors bien sûr, nous allons t'accompagner sur ce chemin de foi. Avec toi, nous apprendrons à faire jaillir une vie encore plus effervescente que celle que tu connais déjà. Et pour l'heure, je vais t'offrir ce geste de l'eau qui dit à la fois la pureté, qui dit à la fois la mort et la résurrection, qui dit que tu passes à travers ce creuset du signe, du sacrement, pour t'ouvrir à une existence en plénitude. Alors je vais vous proposer de vous approcher du baptistère. Marine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marine, l'Éternel te bénit et te garde. Il t'accompagne jour après jour sur le chemin qui sera le tien. Il t'éclaire de sa lumière, de son amour et te donne sa joie. Je vais vous l'emprunter. Frères et sœurs, voici Marine. Elle est ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle. Marine, prends bien conscience que tous ces regards que tu vois, regards qui pour la plupart sont assez humides, eh bien tous ces regards sont portés par des personnes qui t'accueillent avec beaucoup de bienveillance. Voici ta famille spirituelle. Tu auras toute liberté de prendre ta place ici même ou dans toutes les autres communautés qui désignent là aussi l'Église universelle, le peuple de Dieu, la grande humanité. Et à supposer que tu prennes tes distances, eh bien, nous serons témoins de l'amour indéfectible de Dieu pour toi en disant que ta place est à jamais marquée. Et bien entendu, cela sera notre joie qu'un jour tu prennes ta place et que tu confesses avec nous que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà un programme qui semble lui convenir. Je te rends à tes parents et pour que ce moment ne soit pas la dernière étape de son cheminement, je vais vous proposer de prendre la parole pour dire justement quelle est votre espérance, quel est ce chemin que, ou ces chemins que vous espérez pour Marine.
Chère Marine, aujourd'hui, nous célébrons la joie de te compter dans nos vies et nous engageons à te faire grandir au sein d'une famille unie dans l'amour et le bonheur. Nous espérons contribuer à ton éveil jour après jour, ta curiosité et ton intérêt pour le monde qui t'entoure. Nous souhaitons te transmettre les valeurs qui nous sont chères, telles que le partage, l'écoute, le respect, l'intégrité et la bienveillance. Marine, nous voulons te donner les clés pour que tu deviennes une adulte responsable et épanouie, et pour que tu aies la possibilité, le moment voulu, de prendre en main ton destin. Sache que nous serons toujours à tes côtés pour partager tes moments de joie et t'épauler dans les moments difficiles.
Ton baptême aujourd'hui est l'occasion de doublement nous réjouir, à la fois parce qu'il nous donne l'opportunité d'exprimer toute la joie que provoque ta présence parmi nous, et parce qu'il nous permet de célébrer l'amour. L'amour infini et inconditionnel que le Seigneur nous porte dès le commencement. Cette bonne nouvelle nous a notamment été annoncée par le prophète Isaïe. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit le Seigneur, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Confiant en cet amour qui nous accompagne et nous porte, nous pouvons nous rappeler ainsi chaque jour à quel point la vie est un magnifique cadeau, plein de promesses, de joie et d'espérance. Ton baptême est le signe que tu as reçu la grâce et que Dieu est déjà et sera toujours auprès de toi pour te guider et te soutenir tout au long du chemin de la vie. Avec l'Église qui t'accueille aujourd'hui et tous ceux réunis autour de toi, nous essayerons de te faire connaître l'amour de Dieu et nous espérons que tu souhaiteras un jour y répondre par toi-même.
Pour cela, vous êtes entouré par Guillaume et Solange, et je vais laisser à Solange le soin de s'exprimer en votre nom, pour dire aussi de quelle manière vous pouvez compter sur eux.
Chère Marine, quelle joie de te voir grandir depuis un an déjà. Aujourd'hui, tes parents me font l'honneur de me choisir pour t'accompagner dans cette grande étape qu'est ton entrée dans la famille de Dieu. Dès à présent, un lien unique se crée entre nous et d'ores et déjà, ma foi en toi est grande. Mais ce n'est que le début. Je veillerai à ce que ce lien grandisse et que tu saches que tu pourras compter sur moi quand tu le voudras et comme tu le voudras.
Vous avez vu que Marine déjà avait quelques désirs pour attraper le micro lorsqu'il était à proximité. Sache que tu seras bien sûr la bienvenue pour l'école biblique, le catéchisme, qui seront une sorte de propédeutique avant tes études de théologie. Et un jour, tu pourras postuler ici même, car le temps sera venu pour toi de prendre le ministère à bras le corps. Je vous propose maintenant que nous nous unissions dans la prière, et c'est le parrain Guillaume qui nous conduit dans la prière.
Dieu notre Père, nous te disons notre joie pour Marine que tu reçois aujourd'hui dans ton Église. Que son intelligence s'ouvre à ta vérité et que sa vie témoigne de ton amour. Aide-nous, en tant que parrain et marraine, à l'accompagner dans son cheminement de foi, que nous soyons des témoins auprès d'elle. En ce jour, nous te prions particulièrement pour elle et sa famille. Nous te rendons grâce aussi pour notre propre baptême. Soutiens-nous dans nos vies de chrétiens. Amen.
Je vous invite à regagner votre place et nous rendons la parole à Laurent pour la prédication.
Recueillons-nous dans la prière. Éternel, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant dans nos existences des chemins de lumière. Nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit, qui souffle sur le monde, du commencement jusqu'à la fin des temps. Ta parole nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Éternel, ouvre nos portes intérieures pour qu'à travers les paroles que nous allons entendre, passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Chers frères et sœurs, écoutez la lecture de la Bible. Nous avons choisi deux textes de l'école joannique de Jean. Tout d'abord, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 8 à 12. Philippe dit à Jésus : Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je vous dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Oui, du moins, croyez-le, à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est certain, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Puis dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 13. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie, que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous, il nous a donné son esprit. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à chanter le cantique numéro 222, les trois strophes, 1, 2 et 3 de ce cantique 222. Éternel, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins quotidiens, semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu nous aimes. Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais consacrer la prédication de ce culte à cette affirmation de Jésus d'après l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 12. C'est certain, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Cette promesse extraordinaire, cette confiance inouïe, cet espoir fou que Jésus place en nous sont incompatibles avec une partie immense de la pensée chrétienne en général et protestante en particulier, toujours prête à souligner, comme le disait une prière de confession du péché protestante du XVIe siècle, que l'homme est incapable par lui-même de faire le bien. Dieu serait d'autant plus grand que nous serions d'autant plus abaissés. Ludwig Feuerbach, le maître à penser pour les questions religieuses du jeune Marx, dans son livre « L'essence du christianisme » où il dénonçait précisément l'aliénation religieuse et une certaine foi qui rabaisse l'homme, écrivait « L'homme affirme en Dieu ce qu'il nie en lui-même. » Comme si Dieu avait besoin de notre écrasement pour être Dieu, pour être un Dieu en plénitude. Hélas, en consultant différents commentaires consacrés à cette parole de Jésus, j'ai remarqué qu'il faisait l'impossible pour amoindrir, pour atténuer le sens et la portée de cette affirmation de Jésus. Et ils le font de deux manières différentes, qui sont un peu les deux faces d'une même médaille. D'abord, nous disent-ils, il ne s'agit pas là de chaque croyant en particulier, mais de l'Église. Alors que Jésus dit clairement, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes », il ne dit pas « ceux qui croiront en moi » ou « la communauté qui me suivra ». Ainsi, par exemple, Calvin, au XVIe siècle, dans son commentaire, nous dit que ce « faire », celui qui croit en moi, fera. Ce « faire » n'appartient pas à chaque fidèle, mais appartient à tout le corps de l'Église. Plus près de nous, un autre exemple, dans une note de la traduction écuménique de la Bible, la Tob, on nous dit que la grande œuvre annoncée ici par Jésus, c'est l'Église. J'ai bien peur que celles et ceux qui liront ce mot « Église » aujourd'hui projettent dans le texte de Jean une réalité officielle, cléricale, hiérarchique, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jean, ni d'ailleurs avec les autres évangiles. André Gounel, pour protester contre cette manière de noyer la personne dans une église anonyme et impersonnelle, publiait il y a quelques années un article au titre significatif « Vive l'individualisme ». Oui, vive nos engagements, nos décisions, nos responsabilités personnelles, vive notre refus de nous abriter derrière des autorités officielles et prétendument supérieures. J'ai déjà eu l'occasion de citer ici même, en chair, cette réponse que fit Ferdinand Brunetière. C'est un critique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. On lui demandait « Que croyez-vous ?» et il a répondu « Allez le demander à Rome. » Oui, vive notre liberté de conscience. Vive la liberté du croire, comme l'a si bien annoncé dimanche dernier le pasteur James Woody dans sa prédication. Celui qui croit en moi, on a l'impression qu'André Gounel, indirectement, il ne le sait pas, répond à ces quelques mots quand il écrit dans son article « La foi personnelle de chacun a plus d'importance que la foi communautaire de l'Église. » Et puis, ces commentaires rabaissent les paroles de Jésus en disant que ce croyant, celui qui croit en moi, n'est pas vraiment une personne libre et responsable. Ce croyant n'est que, c'est le mot qu'utilise Calvin, l'instrument de Dieu. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui agit pour ses œuvres, malgré nous. Et là encore, la traduction écuménique de la Bible déclare que l'œuvre du Seigneur, pas notre œuvre, l'œuvre du Seigneur se déploie à travers les disciples. Nous sommes le canal de la volonté divine qui se fait en quelque sorte malgré nous. On est très loin ici, me semble-t-il, de la parole nette de Jésus, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » On est très loin de la pensée centrale de notre cher Nicolas Berdiaev, ce philosophe russe, de confession orthodoxe, mais un grand libéral, qui disait que le cœur de l'existence humaine, c'est notre vocation créatrice, et que par nos œuvres inventives, nous pourrons surprendre Dieu lui-même. Alors certains penseront que ses œuvres sont celles qui ont été réalisées pendant 2000 ans extraordinaires du christianisme, œuvre sociale, humanitaire, culturelle, artistique, picturale, littéraire, musicale, des œuvres même scientifiques, médicales, hospitalières, des œuvres philosophiques, théologiques. Il me semble qu'interpréter ainsi la parole de Jésus, c'est procéder à une certaine extrapolation. Je ne suis pas sûr que Jésus pense à cela, mais je préfère cette extrapolation à l'affaiblissement, l'affadissement que l'on fait subir à cette parole de Jésus. Alors cette extrapolation me semble possible à deux conditions. D'abord, que l'on ne voit pas dans ses œuvres extraordinaires uniquement celles de témoins connus, reconnus, célèbres. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui, par leur courage, leur persévérance, leur volonté, leur générosité, ont fait des œuvres extraordinaires et dont nous ne gardons aucun souvenir parce que leur souvenir s'arrête à l'angle dur de nos tombes. Et d'autre part, il faut savoir et redire que ces œuvres qui sont l'œuvre de l'Esprit de Dieu ne sont pas uniquement accomplies dans les cadres du christianisme et des églises, mais se réalisent au-delà de nos frontières ecclésiales. Voyez-vous, ne nous abandonnons pas aux visions dévalorisantes, pessimistes, négatives de l'être humain, même si nous avons toutes les raisons de le faire devant le spectacle du monde. Jésus aussi avait toutes les raisons de le faire devant le spectacle de son monde, un monde terrible du temps de Jésus. Jésus qui connaissait bien la nature humaine, Jésus qui de plus vivait dans un pays occupé, l'occupation par les Romains. Lui aussi aurait pu avoir cette vision négative, mais il nous apporte une vision optimiste de l'être humain et du croyant. Pour conclure cette première étape de ma prédication, j'aimerais vous lire ces mots, ces lignes d'un éditorial paru dans Évangile et Liberté en août-septembre 2013, ces paroles sont de Raphaël Picon. Il écrivait ceci: « Il y a des drames terribles, des existences brisées, en lambeaux, des injustices et des violences effroyables. Mais face à cela, il y aura toujours un prophète, un sage, un poète. » Il y aura toujours le Christ pour nous dire que la vie ne se réduit pas à ses échecs. Il y aura toujours un cependant pour nous raccrocher à la vie, nous donner envie d'y croire malgré tout, envie de scruter une nouveauté encore possible, envie de faire le pari de l'espérance. C'est ce pari de l'espérance en l'homme que Jésus fait ici pour le croyant. Alors, dans une deuxième étape, j'aimerais essayer de comprendre de quelles œuvres il s'agit ici, celles de Jésus et les nôtres, d'après cet évangile. Ces œuvres, c'est bien entendu d'abord, et nous le savons tous, l'agapé, l'amour du prochain. Au chapitre 13, qui précède directement le chapitre où se trouve cette parole de Jésus à laquelle nous consacrons la prédication de ce matin, Jésus déclare à ses disciples qu'il leur donne un commandement nouveau, celui de l'amour du prochain. Et il précise, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour, dit Jésus, et non pas des cultes, à leur liturgie, à leur rite, et non pas des dogmes, à des doctrines, à des catéchismes, ni même à des églises. Mais les protestants, sitôt que l'on prononce ce mot d'œuvre, ont comme un mouvement de recul, tant ils sont habités par cette conviction qui a inspiré toute la réforme du XVIe siècle, à savoir que nos œuvres ne sont pas méritoires, qu'elles sont impuissantes à nous donner le salut. Et pourtant, ces œuvres, ces actions, sont bel et bien l'essentiel. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais voilà, et c'est un des paradoxes de la parole protestante, l'essentiel ne nous sauve pas. Sans l'agapé, le christianisme ne serait plus le christianisme, même si nous n'avons pas le monopole de l'agapé. Nous aimons, nous essayons d'aimer. Nous faisons le bien, nous essayons de faire du bien. Non pas pour être aimés de Dieu, mais parce que nous le sommes. Et c'est cela que signifie le baptême d'un enfant comme nous venons de l'entendre. Nous disons à l'enfant qui a été baptisé, n'est plus là, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, Dieu t'aime. Cela ne dépend pas de toi. Nous sommes invités par l'Évangile à une religion et à sa pratique désintéressée. Mais les œuvres sont aussi dans l'Évangile de Jean, plus particulièrement dans ce contexte immédiat des chapitres 13 et 14, non pas seulement des œuvres qui ont une dimension éthique, morale, l'agapé, l'amour du prochain, mais des œuvres qui accèdent à une dimension que je dirais théologique, religieuse, presque mystique, reconnaître Dieu comme Père. Jésus déclare, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il aurait pu dire, « Celui qui m'a entendu a entendu le Père. » Jésus nous révèle ce Dieu-là. C'est une œuvre principale de Jésus, un Dieu Père. Jésus nous sauve, nous libère de l'image d'un Dieu juge, un Dieu qui condamne, auquel il faut sans cesse rendre des comptes. Dans la première épître de Jean, cela aussi nous a été rappelé dimanche dernier, il y a cette très belle affirmation, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu nous libère de l'image d'un Dieu cruel, vengeur, sanguinaire, qui voulait, pour pardonner aux hommes, que le sang coule sur la croix. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas simplement en Dieu. Que disons-nous quand nous disons « je crois en Dieu » ? Quel Dieu ? À quel Dieu croyons-nous ? Je ne crois pas à n'importe quel Dieu. Je crois au Dieu de Jésus, ce Dieu qu'il appelle Père et dont la première épître de Jean, nous l'avons entendu, donne un synonyme « Dieu est amour ». Nous sommes associés à cette double réalité de l'Évangile. D'une part, les œuvres de l'agapé, de l'amour du prochain, et d'autre part, dire, annoncer, proclamer que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il y a le concert de toutes les religions dans leur histoire et des non-religions, dans leur pensée. Ainsi, une double spécificité chrétienne, l'amour du prochain et l'annonce d'un Dieu d'amour. Les 10 et 11 octobre prochains auront lieu à la Grande Motte, près de Montpellier, les journées d'Évangile et Liberté, d'un protestantisme libéral, qui ont précisément pour titre « Aux prises avec nos images de Dieu ». Enfin, chers frères et sœurs, et ce sera la troisième et dernière étape de cette prédication, Jésus ne dit pas simplement « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes », mais il ajoute ces mots un peu énigmatiques à première vue, « parce que je vais vers le Père ». Il annonce là l'Ascension et Pentecôte, qui, à l'origine du calendrier des fêtes chrétiennes, était d'ailleurs une seule et même fête. D'ailleurs, dans la deuxième partie de ce chapitre 14 de l'Évangile de Jean, Jésus annonce l'envoi du Saint-Esprit. On pourrait dire, en parlant de l'incarnation, c'est une manière symbolique, ce n'est qu'une manière de dire les choses, qu'à Noël, en Jésus, Dieu descend vers l'homme. C'est l'humanité de Dieu, c'est l'humanisation de Dieu. Mais qu'à l'ascension avec Pentecôte, en Jésus, l'homme est élevé à Dieu et à la gloire divine. Mais voilà, Jésus de Nazareth, celui que nous aurions pu rencontrer en Palestine ou dans les rues de Jérusalem, Monsieur Jésus en quelque sorte. Les évangiles nous disent qu'il est un écran pour le prendre véritablement au sérieux. J'aimerais vous lire à ce sujet ce que l'on trouve par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, mais on le trouve dans les évangiles de Marc et Luc également. Voici ces mots. Jésus se rendit dans la ville de Nazareth où il avait grandi. Il se mit à enseigner dans la synagogue et toutes les personnes présentes furent étonnées. Elles disaient, « Doit-il cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-ce pas lui le fils du charpentier, de Joseph? Marie n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il donc ce pouvoir? Et cela les empêchait de croire en lui. » Nous pensons parfois que nous aurions bien voulu rencontrer Jésus de Nazareth, ne serait-ce que croiser son regard. L'aurions-nous suivi pour autant? Le cadre terrestre de Jésus, nous dit l'Évangile, est un obstacle pour sa pleine reconnaissance. L'envoi du Saint-Esprit va élargir son enseignement, son action, sa vie à un cadre universel, infini, au point que l'absence, le départ de Jésus, la mort de Jésus, d'après l'Évangile de Jean, n'est pas un moins, mais un plus. Et c'est pour cela que Jésus déclare à ses disciples ébahis, quelques versets plus loin, « Ils n'y comprennent rien, il vous est avantageux que je m'en aille. » Les œuvres plus grandes, parce que Jésus va vers le Père, c'est l'annonce du dépassement infini des limitations spatiales, temporelles, de l'enseignement, de la prédication, de la vie de Jésus, décloisonner pour atteindre vraiment à une dimension universelle. Dans l'évangile de Jean, ce qui est dit de Jésus est le plus souvent dit aussi de ses disciples. Principalement, on nous dit qu'il est le Fils de Dieu, mais on nous dit aussi que nous sommes fils et filles de Dieu. Dans le chantier du monde, l'Esprit de Dieu nous anime et nous porte. Il nous rappelle notre vocation exaltante, notre mission créatrice, notre dignité, notre condition divino-humaine, fils et filles de Dieu, nous aussi. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Nous aussi pouvons vivre cet agapé. Nous aussi sommes fils et filles d'un Dieu que nous reconnaissons comme un Dieu d'amour. Nous aussi pouvons faire les œuvres que faisait Jésus. Nous aussi sommes habités par le même Saint-Esprit qui l'animait. Nous aussi. Pour conclure cette prédication, j'aimerais vous relire le dernier verset de cet extrait de la première épître de Jean que je vous relisais tout à l'heure au moment des lectures bibliques. Voici comment nous savons que nous sommes unis à Dieu et qu'il est présent en nous, il nous a donné son esprit. Amen. Chers frères et sœurs, autant que je vous dise que j'ai eu toutes les peines du monde à trouver dans notre recueil louanges et prières un cantique qui dise même timidement ce qu'affirme Jésus quand il déclare que nous ferons nous aussi les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes. Enfin, je vous propose le cantique 278, la première, la deuxième et la quatrième strophe de ce cantique 278.
Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord, un grand merci à Laurent Gagnebin pour cette prédication qui est vraiment stimulante pour nous envoyer en mission faire des œuvres extraordinaires que nous seuls pouvons faire. Alors c'est vrai, je voudrais saluer aussi ta fidélité qui est une œuvre extraordinaire. Ça fait quoi, 50, 55 ans que tu prêches dans cette chaire, chaque année, voilà, il n'y a pas... Alors c'est vrai que merci, grand merci pour cette fidélité à laquelle nous sommes très attachés, très reconnaissants, franchement du fond du cœur. Alors à la sortie du culte, vous le devinez parce que nous avons là donc une routière et un routier, nous aurons une vente de gâteaux donc, qui permet de financer un projet dont ils vont nous dire quelques mots.
Alors bonjour, il y a maintenant à l'oratoire un deuxième groupe de routiers. Nous avons pour projet de partir au Cambodge pour aider l'association La Pirogue d'Or, qui a pour mission d'aider les enfants, notamment avec la sécurité alimentaire et l'éducation. Donc nous serons à la sortie du temple pour une vente de gâteaux. Si jamais vous avez besoin de nous pour quelques services, vous pourrez nous voir, nous poser des questions. Nous sommes à votre écoute. Bon dimanche.
Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, je suppose qu'il faut quand même 3 sous pour aller au Cambodge. Et donc, pour que tout le monde, je veux dire, toutes les familles, quelle que soit la condition de ressources, puissent vous permettre de participer à ce grand projet, eh bien, c'est vrai que vous cherchez des financements par des petits travaux. Donc, merci de les soutenir. Alors, à la sortie du culte, il y a aussi derrière cette grande porte, il y a aussi un pot d'accueil qui a été préparé par toute une équipe. Donc, c'est avec reconnaissance que nous pouvons prendre ce temps pour discuter avec d'autres personnes, se rencontrer. À la suite de cette rencontre, nous aurons aussi, pour ceux qui le désirent, eh bien, une après-midi, c'est-à-dire qu'on va pique-niquer ensemble et puis on ira faire une balade. Donc, il faut quand même avoir un peu la santé pour marcher parce qu'avec ce beau temps, nous irons, bon, nous en discuterons avec les personnes qui seront là, mais peut-être une promenade au parc de Sceaux ou bien une visite dans Paris. Alors le jeudi, il y a la répétition du chœur à 19h30 en face, rue de l'Oratoire. C'est vrai que le chœur, c'est le bon moment pour rejoindre le chœur, quel que soit votre pupitre. Donc c'est avec joie qu'ils vous accueilleront. Samedi à 10h. Et non 11h comme marqué sur la feuille. À 10h, il y a donc le groupe d'hébreu biblique avec notre cher collègue Gilles Castelnau. Et puis à 12h30, samedi prochain, il y a le banquet des lycéens, donc les lycéennes, lycéens, protestants ou non, ou assimilés, eh bien, peuvent participer à ce banquet. Mais cela dit, il faut envoyer quand même un petit SMS, un petit mail, un petit appel pour que nous puissions, que l'équipe qui constitue puisse prévoir ce qu'il faut. Mais c'est avec joie de vous accueillir pour un banquet et puis un temps de discussion théologique. Et puis dimanche prochain, il y a un culte avec James Woody et puis avec les enfants des catéchismes. Donc là, c'est aussi un grand moment pour transmettre une façon d'interpréter les textes bibliques, car ce n'est pas de l'endoctrinement, mais c'est plutôt leur donner des outils pour réfléchir par eux-mêmes. Et puis, il y a aussi le repas paroissial dimanche prochain, dont vous pouvez vous inscrire soit à la sortie, soit auprès de l'accueil, pareil, pour que nous puissions prévoir ce qu'il faut. Donc, nous prions pour qu'il y ait beau temps dimanche prochain. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Je ne pense pas que Dieu fasse la pluie et le beau temps en poussant des nuages. Mais en tout cas, s'il pouvait faire un beau temps dimanche prochain, ce serait pratique pour qu'on puisse concilier le catéchisme avec le pique-nique dans les jardins des Tuileries et puis le repas de paroisse en face. Nos activités reprennent progressivement. Pour savoir un peu le programme, vous pouvez prendre la feuille rose qui est à la sortie. Et puis sinon, consultez le site internet. Donc il y a le groupe théologique qui va reprendre la semaine d'après, une conférence sur l'écologie et tout plein d'activités qui vont reprendre. Donc c'est avec joie et à la carte, je dirais, toutes ces activités. En ce dimanche, nous avons la scène, comme vous pouvez le voir. Tous sont invités à s'approcher de la table du Seigneur, quelles que soient vos croyances et non-croyances, quelle que soit votre appartenance à telle ou telle église, telle ou telle religion, que vous soyez baptisé ou non. Mais c'est un signe de tout ce que Dieu nous donne en Christ, et participer à ce repas peut être une façon, si vous y êtes sensible, eh bien de dire oui, finalement, à tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Si vous ne désirez pas communier, vous pouvez soit rejoindre le cercle et puis passer le plat et la coupe à votre voisin, en signe de, je dirais, votre désir d'être ensemble autour de ce Jésus-Christ, ou bien vous pouvez rester à votre place à méditer silencieusement. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. Les diacres de notre Église vont recueillir ce que nous avons mis à part pour que l'Église puisse porter ce témoignage dans le monde et accompagner les familles qui le désirent en votre nom. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô notre Dieu, Père éternel et saint, il est vraiment digne et juste, C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour infini. C'est pourquoi, avec tous les chrétiens de toutes les églises partout dans le monde, avec la grande nuée des témoins à travers les siècles, en une joie commune, nous te rendons gloire. Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de ta lumière. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On chantait le spontané « Pars-toi pour une fête ».
Pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, il prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, le leur donna, et leur dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». De même, après, il prit la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'Alliance, l'Alliance pour la multitude, pour le pardon des péchés ». « Je vous le dis, ajoute-t-il, je n'en boirai plus jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Unissons-nous dans la prière. Dieu de tendresse et de fidélité, nous voulons par notre geste nous souvenir de ce qu'a dit et de ce qu'a fait le Christ pour toute l'humanité. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous soyons en communion avec le Christ vivant, avec sa façon d'être, avec ses paroles, avec sa résurrection. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour attendrir notre cœur et pour nous permettre enfin de reconnaître que notre prochain est digne d'être respecté et servi, digne d'être aimé. Nous pensons devant toi et grâce à toi à ceux que ton amour nous appelle à aimer et servir nous-mêmes. Et c'est d'un même cœur que nous te prions comme notre Père commun à toutes et tous, avec ces mots que Jésus a laissés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est donc sans crainte aucune, mais avec confiance et espérance que chacune et chacun, tel qu'il est aujourd'hui, peut entrer en communion avec Dieu et participer à ce repas en signe de mouvement vers lui. Venez, dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt, nous dit-il. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance nouvelle répandu pour la multitude, pour le pardon de tous.
Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans la paix du Seigneur ressuscité.
Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée directement par notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, béni sois-tu, ô Dieu, source de vie.